Il y a Astérix qui est tombé dans la potion quand il était petit. Notre invité, lui, a fait le choix de se saucer dans la potion du bonheur. Étienne Rappeau, bon matin.
Bon matin, c'est une très belle introduction. La première fois qu'on me présente comme ça, j'adore ça.
Mais je trouvais que la notion du choix est vraiment importante, puis c'est un peu ce que tu essaies de partager aussi.
Oui, j'ai une belle philosophie, moi, qui est axée sur la gratitude, la pensée positive. Puis j'ai écrit un premier livre qui s'appelle « Faire le choix du bonheur », dans lequel je dis que le bonheur est un choix. Moi, je me réveille tous les matins de ma vie, puis je me dis qu'aujourd'hui va être la nouvelle plus belle journée de ma vie. Il peut m'arriver bien des affaires, mais une chose sur laquelle j'ai le contrôle, c'est qu'à tous les jours de ma vie, je me dis « ça va être une belle journée, je remercie la vie, puis je fais le choix du bonheur, en quelque sorte ».
C'est une belle façon de voir les choses. Et là, tu as fêté tes 20 ans de carrière et pour l'occasion, tourner pour nous offrir un peu tout ce qui te passionne, tes chansons, un contact humain, ta plume aussi. Puis là, je veux qu'on commence par parler de ta plume, nouveau livre, ton deuxième qui s'intitule « Vivre, aimer, souffrir et recommencer », qui se veut un guide pour nous simplifier la vie. Puis je trouve que le titre est vraiment bien choisi parce que ça exprime c'est quoi le cycle de la vie? Chaque chose est inévitable. Fait que si tu peux nous aider un petit peu, pourquoi pas?
Ben écoute, c'est exactement ça. Tu sais, j'arrive à 45 ans. J'ai lu beaucoup dans ma vie. Je me suis intéressé beaucoup à l'être humain, à comment on fonctionne, le cerveau, la psychologie, la philosophie. Puis j'ai vécu toutes sortes d'affaires aussi dans le hockey, dans la chanson. J'ai vécu beaucoup dans l'humanitaire avec l'équipe de Sainte-Justine au cœur du monde. J'ai fait des missions humanitaires en Éthiopie, au Sénégal, au Maroc, en République dominicaine, au Mexique. Fait que, tu sais, j'ai acquéri toutes sortes d'expériences dans ma vie. Puis je me suis dit, à l'âge que j'ai, avec le bagage que j'ai, je pense que je suis prêt à tout mettre ça dans un livre. Puis je pense sincèrement que ça peut aider les gens, puis ça peut faire du bien à beaucoup de monde. C'est ce que moi, j'ai vécu. En fait, faire le choix du bonheur, le premier livre, c'est tout ce que j'ai trouvé dans ma vie pour vivre dans le bonheur, pour tous les trucs, les exercices, les choses très concrètes, très pratiques qui font en sorte que tu vis dans le bonheur à tous les jours de ta vie. Et après ça, j'ai vécu une période très difficile dans les peut-être 2 ou 3 ans où j'ai eu une conjointe qui était très malade, il y a eu beaucoup de maladies, il y a eu du deuil dans ma famille. Et là, la vie m'a martelé à grands coups de pelle d'en face. Écoute, c'est comme si on m'avait dit, ah ben oui, monsieur bonheur, là, faire le choix du bonheur, le bonheur, c'est un choix, attends un peu, on va te tester. Là, la vie m'a testé comme il faut. On va voir si ça marche, tes petites théories, que tu fais le choix du bonheur à tous les jours. Et ce que j'ai fait dans le deuxième livre, c'est que j'ai essayé de comprendre tous ces grands thèmes-là, qui sont la souffrance, les épreuves, comment donner un sens à sa vie. Puis j'ai réfléchi là-dessus, puis j'ai tout mis ça dans un livre.
Est-ce que c'est des conseils pour les épreuves de la vie en général ou pour des épreuves ciblées?
Un petit peu des deux. J'ai par contre, par exemple, un chapitre sur l'Alzheimer où j'ai essayé de comprendre et de mettre par écrit de façon un peu philosophique, un peu poétique, psychologique, qu'est-ce que c'est l'Alzheimer, comment on peut l'aborder, comment je le comprenais, les ruptures aussi, j'ai un chapitre sur les ruptures. Je parle aussi beaucoup du courage, je parle du deuil. Fait que, tu sais, c'est un peu tout ça, mais je laisse les gens réfléchir à ça. Je veux amener une réflexion, je donne ma réflexion, ma vision de tout ça, mais ça amène les gens à réfléchir. Alors que le premier, c'est un guide pratique avec des conseils. Fais ci, essaye ça, voici l'exercice que je fais. Alors que le deuxième, c'est des grandes questions existentielles auxquelles j'essaie de répondre, mais je laisse le lecteur faire son chemin lui aussi. J'y donne mes pistes, mes idées, mais je pense que ça amène les gens à réfléchir beaucoup.
Il y a vraiment la réponse de quel est le sens de la vie et des épreuves? On ne vendra pas le punch, mais c'est bien intéressant de la façon comment tu l'amènes. Et ben, y a eu des prises de conscience avec ce que tu as vécu, avec ce que tu as lu aussi. Mais il y en a eu aussi pendant l'écriture du livre.
En fait, c'est que la différence entre le premier et le deuxième livre, le premier, j'ai eu une vingtaine d'années pour l'écrire, c'est le résumé de tout ce qui a fonctionné pour moi dans ma vie. Alors que le deuxième, je traversais une période extrêmement difficile où, au début de chaque chapitre, j'essayais de me poser une question à laquelle je n'avais pas de réponse. Pourquoi on souffre comme ça? Pourquoi j'ai une conjointe qui est malade 7-10 jours en ligne? Pourquoi je maudis la vie, je regarde le ciel puis j'ai cette vie de mal? Comment ça que ça m'arrive et tout ça? Puis tu sais, j'ai fait des constatations. Je te donne un exemple. Je suis arrivé à m'amener dans plein milieu d'un chapitre sur le sens de la vie. Puis j'ai fait, OK, je viens de comprendre quelque chose avec beaucoup de lecture et de recherche puis de réflexion. Je me suis dit, wow, attends un petit peu là. Il faut arrêter de quémander le sens de la vie. Il faut comprendre que c'est la vie qui nous pose des questions. C'est à nous à trouver les réponses. La vie, c'est le test lui-même. T'sais, c'est comme un professeur avant le test, il ne te donnera pas les réponses. Ça donnerait quoi? Ça serait futile. Donc, à travers l'épreuve, c'est à toi à donner un sens. J'ai écrit une phrase qui dit « Un être humain peut être anéanti par la douleur, mais il ne peut pas être détruit par une souffrance dont il a trouvé le sens. » Il y a Friedrich Nietzsche, qui est un grand philosophe allemand, qui a dit « Celui qui a un pourquoi peut surmonter n'importe quel comment. » Donc, dans sa vie, si tu comprends le sens de ta vie, pourquoi tu pars, pourquoi tu souffres, pourquoi tu passes à travers des épreuves, c'est quoi le but, le sens de ta vie, ta mission de vie, tu vas trouver n'importe quel comment, tu vas surmonter n'importe quelle épreuve. J'ai aussi fait plein de constatations que je parle aussi du courage, on en parlait hors d'onde, mais à quel point... ça, c'est une grosse constatation. J'ai un chapitre qui parle du courage. J'ai entendu tellement de fois, puis tu l'as sûrement entendu dans la vie, donnez-moi le courage d'affronter les épreuves. J'ai compris qu'on ne peut pas quémander du courage comme si ça nous était dû. Du courage, il faut l'incarner. Le courage, c'est une lumière qu'on a dans nous puis qui peut être appelée seulement dans l'obscurité d'une épreuve. Quand tu as une obscurité de l'épreuve, là, oh, attends un peu, il faut que j'incarne le courage. Puis j'ai dit, le courage, ça s'acquiert seulement à travers l'épreuve. Quand tout va bien dans ta vie, quand tu es heureux, quand tout est parfait, ben, tu n'as pas besoin de courage, tu ne deviens pas plus fort, plus résilient. Donc, l'épreuve te permet de devenir quelqu'un de plus fort, de plus résilient, de plus courageux. Fait que, tu sais, c'est plein de petites constatations comme ça, mais que je pense que quand les gens vont les lire, ça va les aider à passer à travers des choses. J'ai constaté aussi que les épreuves, c'est le chaos, c'est l'obscurité, c'est le noir. Puis quand on arrive, ou c'est un territoire inexploré, quand on arrive à quelque part qu'on ne connaît pas, on est perdu. On ne sait pas où se rendre. Fait comme un navigateur qui arrive puis qui met la latitude d'un nouveau monde, bien, quand tu arrives dans une épreuve, bien, tes larmes, ta douleur, ta souffrance, c'est ça qui te permet de déchiffrer le territoire. Mais une fois que tu as passé à travers, la prochaine fois que tu vas revenir dans ta souffrance ou dans ta douleur, ta map est faite. T'as passé par là. Donc, tu sais c'est quoi. Fait que je dis, la plus grande preuve de courage, c'est l'acceptation de la douleur. Quand t'as accepté le rôle que la douleur joue dans ta vie, que la souffrance joue dans ta vie, quand t'as accepté que ça va revenir constamment, après, t'es plus prêt à l'affronter. Là. Je te faisais la petite analogie, je vais finir là-dessus parce que je pourrais parler pendant 4 heures, puis je sais que c'est une entrevue qui est courte, mais comme un marin qui est pris dans la tempête puis qui affronte une vague immense qui s'en vient vers lui, il peut aller nulle part, il est en plein milieu de l'océan. Donc la vague, c'est comme la souffrance ou la douleur qui arrive dans ta vie, tu peux pas y échapper, c'est le principe même de la vie, le premier grand principe du bouddhisme ou du christianisme, la vie est souffrance, que tu le veuilles ou non. Fait que la vague, elle peut te détruire, mais elle peut aussi t'amener plus loin. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut te préparer à cette douleur-là, puis quand elle arrive, il faut que tu composes avec elle, il faut que tu vives avec elle et que tu l'acceptes. Puis après ça, ben une fois que tu passes au travers, tu es quelqu'un de plus fort, de plus résilient.
Ordon, on se parlait de la synchronicité, puis je t'écoute parler, puis pas plus tôt que ce matin, j'écoutais pour la première fois une des nouvelles chansons de Jannick Fournier, puis il y a une phrase qui dit « T'as le choix d'avoir peur ou t'as le choix de faire confiance. » On dirait que je l'attribue un peu à ça, de faire confiance à cette douleur-là qu'elle arrive pour te faire cheminer, pour t'apprendre quelque chose.
Ah, c'est beau, sais-tu qui a écrit ça?
Non, il faudrait que je fasse mes recherches, mais ça m'a vraiment marqué comme phrase. Puis on dirait que de t'en parler là avec le sujet, synchronicité.
Synchronicité, absolument. Tu as le choix d'avoir peur ou tu as le choix d'avoir confiance. Puis je pense que la vie va toujours, ça a l'air cliché de dire ça, mais que la vie va toujours t'amener au bon endroit, au bon moment. Moi, j'ai vécu toutes sortes de choses dans ma vie. Puis dans mon premier livre, d'ailleurs, c'est le thème central du livre où je dis qu'au début de la vingtaine, mon univers s'est arrêté. Moi, j'étais un joueur de hockey, j'avais été repêché par le Canadien. J'ai eu des grosses blessures, séparation de laine complète. J'ai été une grosse reconstruction. J'étais chez nous, pas en chaise roulante, mais en béquille. Je savais plus quoi faire de ma vie. Je pleurais presque tous les soirs parce que mon rêve était brisé de jouer dans la Ligue nationale. Puis c'est deux amis de filles qui m'ont dit « Hey, là, on va te sortir de ta torpeur. » Ils m'ont amené. On dit « On va aller au Voûte Napoléon, un petit bar de chansonniers à Québec que je ne connaissais rien du monde des chansonniers. » Moi, j'étais un pianiste classique. J'avais commencé à jouer de la guitare puis à fredonner un peu, mais je me considérais pas chanteur. Et c'est le fait que j'étais chez moi, chez mes parents à Québec, que je pouvais plus jouer au hockey et j'étais sans déprime. Et là, ces deux filles-là m'amènent dans une boîte à chansons. Je rentre là et c'était le plus gros coup de foudre de ma vie. J'ai vu le chansonnier en avant faire chanter les gens. J'ai vu tout le monde fredonner avec lui. J'ai fait, je veux faire ça.
C'est peut-être ça mon plus grand rêve au lieu du hockey.
Ouais, et à ce moment-là, j'avais l'impression que ma vie était finie, tu sais. Fait que j'ai fait confiance à la vie. J'ai abandonné ma carrière de hockey. J'étais allé rester dans un 1,5 dans un petit appartement. Je faisais 100$ par soir et j'étais heureux. Puis je fonçais vers mon rêve. Ça m'a pris 3 ans à faire ça avant d'être sélectionné à Star Academy. Tu sais. Mais ça te montre que la vie peut t'amener à bien des endroits. Puis encore une fois, je n'aurais pas pensé un jour écrire des livres. J'aurais pas pensé devenir conférencier. J'aurais pas pensé que la tournée de 20 ans de carrière, ce serait une tournée de conférences musicales. Tu sais, c'est un nouveau concept que j'ai, je pense, inventé. Il y a des comédies musicales.
Oui.
Mais là, moi, j'ai inventé une conférence musicale où je raconte tout mon parcours de vie, toute mon expérience, tout ce que je juge le plus pertinent dans mes deux livres, puis dans tout ce que j'ai vécu dans ma vie, je veux le donner aux gens en 1h15, 1h30. Et tout ça, je l'image avec mes chansons. Donc, quand je raconte que j'ai une conjointe qui a été très malade, puis que je suis allé la voir à l'hôpital, puis que j'en ai pleuré ma vie quand je suis revenu, tellement elle était maganée, tellement elle est solutée, il faisait que son visage était enflé, puis qu'elle souffrait. Je suis revenu à la maison, puis qu'est-ce que je fais quand j'ai de la peine? Ben j'écris. Puis j'ai pris ma guitare, puis j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Veux-tu faire ta vie avec moi? » Donc là, je la prends ma guitare, et en regardant les gens dans les yeux, et en leur racontant l'histoire, pas juste une minute entre les chansons, je raconte toute l'histoire. Et là, je prends ma guitare avec un micro-casque, et je leur chante, puis je marche, puis je les regarde dans les yeux. Tu sais, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de séparation. Tu sais, c'est pas comme moi, je suis sur une scène avec des gros éclairages loin, puis je leur chante mes tunes. Non, je suis parmi les gens, c'est des salles très intimes. Je vais être collé avec les gens. Ou quand je parle de l'Alzheimer, ce que j'ai vécu, après ça, ben, je chante cette chanson-là. Donc, c'est toutes mes chansons les plus touchantes, mes plus connues aussi que les gens aiment, à travers une conférence musicale où je connecte avec les gens. J'ai réalisé avec les conférences que c'est... on a un contact humain direct encore plus vrai, plus profond que juste la musique. J'ai remarqué ça. Fait que je trouve que pour mes 20 ans de carrière, d'aller voir les gens... Puis un petit côté aussi que j'aime bien, c'est que le spectacle est à 7h30, les portes ouvrent à 7h, et je vais accueillir chaque personne qui va arriver. À partir de 7h, c'est moi qui vais ouvrir les portes, je vais être devant, puis je vais serrer la main, faire un câlin, dire bonjour à tout le monde qui vient me voir. Je veux que les gens arrivent comme chez moi. Rentrez chez moi, bonjour, salut, je vous serre la main, venez vous asseoir, puis quand ça commence, on part, puis on a un échange, une discussion, puis j'espère que ça va toucher les gens d'une autre manière que je l'ai fait dans mes 20 ans de carrière.
Et c'est ça que tu vas venir nous offrir le 26 avril à Shawinigan, 9 mai, Trois-Rivières, Étienne Rappeau. Merci infiniment.